Europe 1. Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission d'histoire qui vous la raconte sans se la raconter. Émission qu'on devrait baptiser aujourd'hui Poétiquement vôtre, puisque nous allons rendre hommage à trois poètes disparus. Or, pour rendre hommage à des poètes disparus, quoi de mieux qu'un poète pas disparu, capable de citer de mémoire les vers bouleversants des plus grands poètes monégasques.
L'amour a tout emporté.
Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, j'aime beaucoup votre humour.
C'est, ah oui. C'est vraiment grisant avec des gens comme vous, des artistes, des poètes comme ça, c'est magique.
Oui, bonjour à tous. En particulier, je salue les monégasques qui nous écoutent, ils sont nombreux, je le sais. Aujourd'hui, nous réunissons en effet trois poètes d'époques différentes, mais effectivement, trois poètes disparus. D'abord celui que l'on surnommait le prince des poètes et le poète des princes, Pierre de Ronsard. On a tous appris à l'école ces quelques vers mignonnes. Allons voir si la rose qui ce matin avait éclose, etc. On ira voir qu'il y a bien d'autres choses derrière eh bien, ces vers de Pierre de Ronsard. Puis un poète qui nous a quittés il y a 30 ans, jour pour jour. C'était le 2 mars 1991. Serge Gainsbourg.
Je suis le poinçonneur des lilas.
Un auteur, un interprète qui s'est lui-même inspiré des poètes pour devenir un artiste majeur qu'on a tous plaisir à évoquer cet après-midi. Une évocation avec Jane Birkin qui sera avec nous aussi dans le cadre de cette journée spéciale Gainsbourg sur Europe 1. Quant à vous Mathieu, d'habitude vous faites les vivants, mais vu notre thème
oui,
du jour,
je pouvais pas.
Exceptionnellement, vous aussi c'est d'un disparu dont vous allez nous parler, mais pas n'importe lequel, celui du cercle des poètes disparus.
Et oui Stéphane, aujourd'hui je vous raconterai l'histoire de Robin Williams, un acteur de génie, un type talentueux, rieur, bourré de fantaisie, mais qui fut hélas rongé par une terrible maladie orpheline qui l'a finalement mené au suicide. Sans transition, bonjour David Castello-Lopez.
Bonjour, comment ça va?
Le dépressif de la bande. Ça va David?
Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler des... Donc, chaque jour, je parle des origines de quelque chose du quotidien. Là, c'est le quotidien de beaucoup de gens. Je pense pas à celui des gens dans ce studio. C'est les origines du SMIC. D'où ça vient, le SMIC?
Un SMIC par jour, en ce qui concerne ses femmes. C'est un chiffre qui lui parle aussi.
Êtes-vous bien plein? Enchaînons, Stéphane.
Clémentine est avec nous également. Clémentine Portier-Keltenbach, bonjour.
Bonjour, messieurs. Bonjour. Oh, bah écoutez.
Vous allez nous entrer dans l'intimité des grandes semaines, n'est-ce pas?
Oui, et d'un, plus exactement d'un petit garçon, un petit garçon rêveur qui passa son enfance dans un château abandonné et un jardin extraordinaire. Je vous emmène vous promener aujourd'hui.
Olivier Pouls, alors nous allons dans les. On va parler d'un produit. De notre quotidien.
Ah ben je pense qu'on en mange tous assez régulièrement. Les champignons de Paris.
Oui.
Alors viennent-ils de Paris?
Ah ben non.
Ah ah.
Non. au mieux des habitations troglodytes du centre Val-de-Loire.
Ouais, et alors je vous raconterai quand même qu'il y a une petite origine parisienne, mais puis je vous donnerai une recette assez originale, je pense. On va faire une association inattendue.
Il y a pas de saison pour les champignons de Paris?
Bah pas vraiment. Une petite, mais pas vraiment puisqu'ils poussent sous terre. Donc
et sous terre, il n'y a pas de saison.
Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de printemps, il n'y a pas d'été.
C'est finement raisonné, Olivier, je vous retrouve bien là. Enfin, la poésie, c'est bien joli, mais n'oublions pas la compétition. Rendez-vous vers 5h10 pour Burn to be Alive, le choc des cerveaux plus ou moins rutilant qui oppose chaque jour Clémentine à Stéphane. Tous les deux étant très mauvais joueurs, la poésie sort rarement grandie de ses joutes intellectuelles.
Menteur, oh le bluffeur, espèce de guerluchon.
Salope.
Je vous en prie, économisez votre énergie tout de suite. Prenons un peu de hauteur. Stéphane nous raconte le destin de Pierre de Ronsard.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il est le prince des poètes, l'un des plus importants que le XVIe siècle ait compté, un témoin privilégié de la Renaissance. Stéphane Bern nous raconte le poète aux milliers de vers, qui a inscrit son nom évidemment à jamais dans l'histoire, Pierre de Ronsard.
Pour découvrir le destin du prince des poètes, je vous propose une plongée dans le pays vendômois. Non loin des rives du Loir, à la lisière de la forêt de Gastine, là-bas se trouve un manoir fortifié sur lequel le sieur Loïs de Ronsard règne en maître. En cette journée de septembre 1524, il n'est pas peu fier d'annoncer la naissance de son quatrième enfant entre ses murs. C'est un garçon que l'on a prénommé Pierre. La relève est assurée pour le preux chevalier qui peut enfiler son armure et repartir en campagne militaire. C'est à sa chère épouse que reviendra le soin d'élever leur progéniture. Le petit Pierre grandit donc dans un univers bucolique qui lui inspirera bien des vers à l'âge adulte. Il passe des heures dans la bibliothèque du manoir et se rêve en Bayard, ce chevalier sans peur et sans reproche aux côtés duquel son père a combattu pendant les guerres d'Italie. D'ailleurs, ce père a de grands projets pour son jeune fils. Alors Pierre de Ronsard est arraché à sa campagne natale pour gagner les ruelles parisiennes. Il entre au Collège de Navarre, une institution perchée sur la montagne Sainte-Geneviève. Mais 6 mois plus tard, il en est déjà retiré. Il semblerait que le jeune homme ait de mauvaise fréquentation. Dans cette école, on débat un peu trop sur les idées de la réforme. Et oui, souvenez-vous, cette période de l'histoire est marquée par la naissance du protestantisme impulsé par Martin Luther. Or, chez les Ronsard, on est de fervents catholiques. Il ne faudrait pas que le jeune garçon se mette à filer du mauvais coton. Mais fort heureusement, le petit prodige marche dans les pas de son paternel. Il entre au service de l'héritier de la couronne en tant que page. Sauf qu'à peine Ronsard a-t-il passé les portes du château de Tournon que le fils du roi François Ier trépasse dans des circonstances douteuses. Voilà qu'âgé d'à peine 18 ans, il est pris d'un malaise après avoir bu un verre d'eau fraîche. On se demande vite si le divers ne contenait pas autre chose. Du poison, peut-être. Toujours est-il que, fidèle à son maître, Pierre de Ronsard l'accompagne jusqu'à son dernier souffle et le veille même sur la table d'autopsie. Cette vision macabre inspirera quelques vers au poète qui sommeille déjà en lui. « Je vis son corps ouvrir, osant mes yeux repaître, des poumons et du cœur et du sang de mon maître. » Pierre de Ronsard reste au service des dauphins successifs et fait la fierté de ses parents. Il démontre aisément qu'il est un des pages les plus prometteurs de la cour. Son destin est tout tracé. Il excellera dans les fonctions diplomatiques ou militaires. Oui, mais voilà, son plan de carrière est soudainement réduit à néant. Pierre a contracté une fièvre affreuse. On murmure que c'est une maladie vénérienne. Le pauvre est alité des mois durant à la Poissonnière, mais alors qu'on le pensait condamné, il revient des ténèbres, en ayant perdu la moitié de ses capacités auditives. Chose fâcheuse lorsqu'on aspire à diriger des troupes sur un champ de bataille. Oui, on imagine mal le chevalier de Ronsard, une épée à la main et un cornet acoustique dans l'autre. Pierre n'a alors plus qu'à amorcer une reconversion professionnelle. Il prend la tonsure, c'est-à-dire qu'un évêque rase le sommet de son crâne pour signifier son entrée dans l'état ecclésiastique. Propulsé dans une vie nouvelle, Pierre de Ronsard reprend les études. Il découvre la poésie antique, Homère, Virgile, Horace, et la poésie italienne menée par Pétrarque et ses émules. En un rien de temps, ces auteurs n'ont plus aucun secret pour lui, et c'est là que sa véritable vocation lui apparaît. En fait, Ronsard se débrouille particulièrement bien lorsqu'il s'agit de manier la plume et d'éclamer des vers. Le poète en herbe s'essaye aux odes horaciennes, découvre les alexandrins et se met au sonnet. En pleine effervescence intellectuelle, il se lie à d'autres étudiants férus de poésie. Parmi ceux-là, on retrouve l'auteur de ce célèbre alexandrin, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme sais-tu là. Vous avez reconnu, Mathieu ?
Joachim du Bellay, bien sûr.
Bravo. Ensemble, ils forment la brigade, qui s'appellera ensuite la Pléiade, qui réunit 7 poètes, comme les étoiles de la constellation. Cette fine équipe entend tout simplement lancer un mouvement littéraire lequel doit redonner à la langue française ses lettres de noblesse. Et oui, pourquoi devrait-on envier les auteurs de l'Antiquité ? Face à tant d'ambition, les rivalités ne tardent pas à poindre. Nombreux sont les poètes qui cherchent à éblouir la cour du roi, et ces derniers temps, les plus en vogue étaient les représentants de l'école marotique. Mais la poésie savante apportée par Ronsard et sa bande leur fait de l'ombre. Alors dans une vile tentative pour déstabiliser l'adversaire, le poète Mélin de Saint-Gelais s'amuse à dévaloriser les poèmes de Ronsard devant le roi. C'était sans compter sur Marguerite de France, la sœur d'Henri II, a choisi son camp et compte bien favoriser ses petits protégés. Nous parlons des amitiés de Ronsard, mais n'oublions pas ses amours. Un soir, au château de Blois, alors que la fête bat son plein, Ronsard croise un doux regard qu'il n'oubliera jamais. C'est celui de la jeune Cassandre Salviati, la fille d'un riche banquier florentin. Le poète est transpercé illico par les flèches de Cupidon. Oui, il est fou amoureux. Pierre de Ronsard est amoureux, mais un peu de raison s'impose. son état de clerc tonsuré, qui signifie qu'il aspire à l'état ecclésiastique sans pour autant être moine, rappelle à tous, lui y compris, qu'il lui est interdit de se marier. Le cœur en miettes donc, il apprend impuissant l'union de Cassandre Salviati avec le seigneur de Pré. Alors Pierre sort sa plume et sur le papier l'encre se mêle aux larmes pour écrire ses odes les plus célèbres que l'on a tous appris par cœur à l'école. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Mais trêve de mièvrerie, le poète est bien décidé à ne pas sombrer dans la mélancolie, alors il ne s'attarde guère dans le registre de l'amour platonique et se lance sans tarder dans l'écriture de vers scandaleux. Dans le livret des Folastries, le style est grivois. Oui, il y est question de lance au bout d'or et de vermeillet de fente. Je ne vous fais pas de dessin, non, Mathieu, vous avez compris.
J'ai tout à fait compris.
Continuons. Mais Ronsard n'a pas perdu le sens des réalités et fait publier ses poèmes de façon anonyme. Le poète a du flair, car à peine diffusé, son livret des Folastries est brûlé sur ordre du Parlement pour sa haute teneur immorale. Pourtant, chassé le naturel, il revient au galop. Pierre de Ronsard est un vrai cœur d'artichaut et revient à des vers passionnés, car après Cassandre, il chantera l'amour dans ses odes à Marie, ses poèmes à Isabeau, Genèvre ou Rose, et peut-être les plus célèbres, ses sonnets à Hélène de Surgère, fille d'honneur de Catherine de Médicis. Elle avait 20 ans de moins que lui, elle portait le deuil d'un fiancé perdu, alors la reine lui avait conseillé de consacrer des poèmes à cette jeune femme, en raison de sa beauté, certes, de son malheur peut-être, mais de son esprit surtout. Ronsard est un passionné. Il est très prolifique et a le vent en poupe, si bien qu'il devient poète officiel à la cour. S'il est le prince des poètes, il est aussi le poète des princes. Et oui, ses vers à la gloire des souverains successifs servent la propagande royale et lui remplissent les poches. Jusqu'à son dernier souffle, Pierre de Ronsard écrira des poèmes. En voici un dernier, dicté au crépuscule de sa vie. Il faut laisser maisons et vergers et jardins, vaisselles et vaisseaux que l'artisan burine, et chanter son obsèque en la façon du cygne qui chante son trépas sur les bords méandrins. C'est fait, j'ai dévidé le cours de mes destins, j'ai vécu, j'ai rendu mon nom assez insigne, ma plume vole au ciel pour être quelque cygne, loin des appâts mondains qui trompent les plus fins.
Europe 1, historiquement vôtre.
C'était tellement beau, Stéphane, à un moment, j'ai cru que c'est vous qui l'aviez écrit.
Oh non.
Pour continuer à parler de Ronsard, nous sommes avec François Roudot, bonjour.
Bonjour Stéphane Bern, bonjour Mathieu Noël.
Bonjour François Roudot, vous êtes professeur de littérature française du XVIe siècle, hein, évidemment, à l'Université de Montpellier, grand spécialiste de Ronsard et à l'origine d'une nouvelle édition des Amours de Pierre de Ronsard parue au livre de poche. Le propre des chefs-d'œuvre, c'est d'être inépuisable. Avez-vous pour cette édition découvert quelque chose d'inédit sur le poète ou dans son œuvre qui nous inciterait à le lire ou le relire avec nos lunettes d'aujourd'hui?
Alors, en publiant cette édition, je n'ai pas voulu ajouter une étude érudite supplémentaire, mais faire à l'écrit, finalement, ce que vous faites dans vos émissions, c'est-à-dire inciter les gens à lire, en l'occurrence Ronsard. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dirais que j'ai d'abord modernisé l'orthographe, inutile par exemple d'écrire « il avouait » au lieu de « il avait ». Deuxième point, j'ai donné en bas de page le sens des mots qui ont disparu. Et enfin, dans les dernières pages du volume, j'ai donné des notes qui citent des passages d'auteurs antiques ou italiens pour montrer comment Ronsard s'en est nourri. C'est ce dernier point qui me paraît très important, c'est-à-dire que c'est toute une culture dont nous avons perdu la connaissance depuis peu, je dirais depuis une cinquantaine d'années, et qui a construit le savoir pendant des siècles.
Alors, il y a un débat, pas vraiment une querelle, mais plutôt un débat. Ronsard, prince des poètes ou poète des princes? Vous vous placez de quel côté?
Ah, écoutez, depuis 450 ans, les choses ont changé. La vie de Ronsard s'estompe. On ne sait plus de quel prince ou de quel roi même il a été le poète et le conseiller. Il était très proche d'Henri II. Il est donc désormais, pour nous, le prince des poètes, comme il le fut du reste de son vivant. Son succès fut absolument considérable, car son génie s'exerce dans tous les genres de la poésie. Dans la présentation, c'est la partie amoureuse qui a été valorisée parce qu'effectivement, c'est la plus connue désormais. Mais c'est aussi un auteur un très grand auteur de poésie philosophique et politique. Et ce sont ces deux derniers domaines qui lui ont apporté la gloire la plus haute.
Ronsard, je le disais, était très cultivé, puisqu'il lisait les Grecs et les Italiens, Pétrarque notamment. Est-ce que, au fond, on doit le ranger dans une culture élitiste dans sa poésie, qui est quand même très référencée?
On l'a souvent accusé, et cela dès avant la fin de sa vie, d'être un poète savant. Mais son propos est vraiment de récapituler, d'une certaine manière, la poésie existant avant lui. Il y a, si vous voulez, une volonté chez Ronsard de totalisation de ce que l'on pourrait appeler l'univers poétique. Cette volonté s'apparente, me semble-t-il, à ce qu'a voulu faire le poète allemand Goethe plus tard, ou plus près de nous encore, l'écrivain Michel Butor.
On a tendance à oublier aussi un peu qu'elle est ludique, la poésie de Ronsard. Il y a les polysémies, des jeux d'antithèse. C'est aussi ça, Ronsard, le plaisir de jouer avec les mots?
Oui, en effet, il y a chez Ronsard une extraordinaire variété de tons, une capacité tout à fait étonnante à produire des combinaisons multiples. Les antithèses sont dans une large mesure une manière de reprendre une des caractéristiques du style du poète italien Pétrarque. Mais je dirais que jouer avec les mots, c'est aussi élargir son monde. Je veux dire que Ronsard emprunte au vocabulaire des métiers, des tisserands par exemple, ou au vocabulaire des dialectes, le parler vendômois, pour que sa langue étant plus riche, sa compréhension du monde soit plus fine. C'était déjà la pensée du grand humaniste Erasme. Pour Ronsard, célébrer l'amour, c'est participer au mouvement général du monde. Toute sa poésie est comme une gigantesque peinture animée par un mouvement constant.
On continue à parler de nos poètes disparus et de Ronsard en particulier avec notre invité François Rouleau sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre et nos poètes disparus. Cet après-midi, on parle de Pierre de Ronsard avec le professeur de littérature François Rouleau. Alors, Ronsard, évidemment, aujourd'hui, c'est un classique, mais à l'époque, c'était un moderne. Il est l'artisan de la modernisation de la langue avec les poètes de la Pléiade. Qu'est-ce qu'il a inventé, Ronsard? Des mots? Des expressions?
Alors, vous parlez de la Pléiade. En effet, en 1549, ces jeunes poètes, ils ont environ 25 ans, et en premier lieu du Bellay, écrivent un manifeste qui a pour but cet enrichissement de la langue française, comme les Italiens venaient de le faire pour leur propre langue. Et cela passe par la reprise de mots de l'ancien français, que l'on n'utilisait plus. Je pense à « isnel », par exemple, qui veut dire « rapide »,« agile ».
Il a ressorti des mots, en fait. Il n'a pas inventé des nouveaux mots, il a remis au goût du jour des mots.
Il a ressorti des mots, mais il a aussi effectivement créé des néologismes. Il aimait en particulier les diminutifs. Il parle de sa petite âme en disant qu'elle est une amelette, ce qui n'est sans doute pas très heureux. Et si elle est faible, elle sera faiblelette. Alors, vous voyez que ces deux créations n'ont pas survécu, non. Mais nous employons par exemple deux autres mots qu'il a créés, maigrelette, et un peu moins souvent sans doute, solette.
Ah oui, solette, oui. Mais voilà, si on peut, ça nous est arrivé de les utiliser. Mais ce qui est assez étonnant pour beaucoup, Pierre de Ronsard est une rose qui sent très bon, d'ailleurs, je le précise, pour tous ceux qui aiment les jardins.
Mais oui, c'est une des plus délicieuses.
On peut le dire quand même, mais c'est vrai que...
Vous en avez dans votre jardin, Stéphane.
Quelques-unes.
Oui.
Ronsard est un grand cœur d'artichaut, comme je l'ai évoqué dans mon récit. Comment son style a été modelé par les femmes de sa vie? Toutes les femmes, puisque j'ai rappelé qu'il avait un état ecclésiastique qui l'empêchait quand même d'aller jusqu'au terme. De consommer. Voilà. Merci Mathieu de m'aider.
Alors, vous posez en fait la question des rapports de la vie et de l'œuvre. C'est-à-dire, on songe toujours à trois femmes, Cassandre, Marie, Hélène, mais d'autres ont été célébrées plus rapidement. Vous les avez du reste citées, Genève, on pourrait rajouter Marguerite ou Astrée. Je dirais que c'est finalement Ronsard qui choisit l'orientation qu'il va prendre. Ce que dit Ronsard, et ce qui me paraît important, c'est que les poètes reconstruisent le réel. Comme le peintre de paysage place son chevalet pour découper un fragment du monde, puis l'interpréter.
Dans les amours que vous rééditez, c'est assez perceptible ces différents styles qu'il adopte. Entre les poèmes à Cassandre qui sont bourrés de références mythologiques et les poèmes qui sont dédiés à Marie, qui n'ont vraiment rien à voir. En fait, sa force, c'est aussi de savoir s'adapter selon à qui il s'adresse, en fait.
Oui, mais j'ajouterais que Ronsard s'adresse moins, si vous voulez, à une femme précise qu'à ce que l'on pourrait appeler des figures de la féminité. Il construit Cassandre d'une certaine façon, dont le prénom rappelle la prophétesse aimée par Apollon. C'est la femme qui récapitule la partie, disons, antique culturelle de la poésie. Marie est la petite paysanne, la femme naturelle. Hélène, enfin, sera d'une certaine manière le support poétique d'une certaine mélancolie, l'image d'une perfection morale qui l'apparente à une femme idéale au sens de Platon. J'ajouterais, et ça c'est un point qui me paraît très, très important, que pour que les auditeurs comprennent bien, au fil des rééditions de ses œuvres, Ronsard déplace des poèmes adressés à une femme pour les mettre dans un recueil adressé à une autre. Et quant au poème sur la mort de Marie, par exemple, cette petite paysanne, ils sont adressés en fait non pas à la paysanne, mais à Marie de Clèves, aimée par Henri III. Vous voyez comment il y a tout un jeu, toute une transformation d'une expérience personnelle en thème littéraire universel qui fait le génie d'un créateur, et ici de Ronsard.
Mais Hélène de Surgères, dont il est amoureux, et elle n'a pas voulu de lui, évidemment ça nourrit sa poésie, et puis en plus lui n'avait pas le droit de l'aimer puisqu'il était tonsuré. Est-ce qu'au fond c'était pas plutôt une invite de Catherine de Médicis pour une sorte de commande en quelque sorte à son poète officiel?
Oui, tout à fait. On peut parler de commande d'une certaine manière. On pourrait peut-être dire plutôt d'incitation, dans la mesure où Ronsard jouit d'une position considérable. Quant à la tonsure, il a reçu la tonsure en 1543, c'est-à-dire 9 ans avant la parution de son premier recueil amoureux. Il est libre, de ce point de vue-là, d'aimer qui il veut et de le proclamer. Il n'a pas le droit de se marier, mais c'est tout. Il a le droit de faire absolument tout ce qu'il veut. En dehors de cela, il n'est pas soumis au devoir de chasteté, juste au célibat.
D'accord. Stéphane est un petit peu rassuré quand même, hein, parce que sinon c'est
voilà,
plus dur pour lui.
Très bien.
Alors, on ne doute pas de la musicalité de sa poésie. À écouter l'un de ses héritiers, un certain Gainsbourg, et sa chanson en référence au poète Ronsard 58.
C'est tout ce que t'auras, mes vers à la gomme, ma littérature dont tu t'es foutu. C'est tout ce que t'auras pour te rappeler les hommes, tes anciens mordus qui te regardent en plus. C'est le seul miroir où tu ne seras pas moche, il est garanti pour l'éternité. Le vieux père Ronsard n'était pas une cloche quand il disait ça à Saint-Mijoré.
Est-ce que vous trouvez que Gainsbourg était finalement un digne successeur du prince des poètes?
Oui, je ferai deux remarques sur cette chanson pleine d'esprit.
Oui.
Elle suppose la connaissance de l'original, c'est-à-dire la transmission d'une culture. Et le second point, la référence à la biographie ne se pose pas pour Gainsbourg, parce que l'on entend Ronsard derrière ce qu'il dit. Lire Ronsard aujourd'hui, c'est lire d'une certaine manière la récapitulation de toutes les voix antiques et médiévales qui ont parlé de ce qui nous importe fondamentalement ici-bas, c'est-à-dire l'amour, la mort, dont la fuite du temps, que reprend ici Gainsbourg, est une des formes.
En tout cas, vous nous avez aidé là pour cette transition vers la seconde partie d'Historiquement Vôtre. Nous allons parler de Gainsbourg, et je voulais vous remercier parce que vous nous avez donné envie vraiment cet après-midi, François Roudot, de lire la nouvelle édition des Amours de Ronsard qui est parue au livre de poche. Les Amours perdus ne se retrouvent plus, comme dirait l'autre.
Les Amours perdus ne se retrouvent.
Merci beaucoup.
Merci
François Roudot.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires comme si elle y était, comme si elle y avait vécu. Oui, parfois elle y était, oui. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous êtes invitée au château de Mortefontaine. Il y avait des gens bien vivants. Allez, passez devant, nous on vous suit avec Mathieu.
Allez, je vous emmène et pratiquement en landau, si je puis dire, car je vous emmène derrière un
pas
petit garçon.
Pas les landaux d'enfants.
Le landau.
Le landau, c'est comme une calèche, voyez-vous.
Non, mais ça n'est pas faux, parce que le petit garçon derrière lequel je vous entraîne dans ce jardin extraordinaire s'appelle Gérard Labruni. Il est né à Paris le 22 mai 1808, et c'est à 2 ans et demi qu'il qu'il va arriver pour la première fois, venir pour la première fois dans ce beau domaine de Mortefontaine. À 2 ans et demi, il perd sa mère et son père est médecin dans la grande armée, attaché à l'armée du Rhin. Donc on est dans ces années de l'Empire, le père est parti loin. On sait qu'il a été blessé à Vilna, en Pologne à l'époque, l'actuelle Vilnius en Lituanie, bien sûr.
Et
on ne sait pas du tout s'il est encore en vie. Donc ce petit garçon, Gérard, plus de mère, le père à Vilnius, eh bien on l'envoie à son oncle Antoine qui vit à Mortefontaine. Mortefontaine, c'est dans l'Oise, près de la forêt d'Hermenonville, à peu près 30 km au nord-est de Paris. Et auprès de cet oncle Antoine, ce petit garçon, Gérard, va passer des années enchanteresse jusqu'à son retour auprès de son père à Paris, qui était à Vilnius, bien vivant. Qui
donc est revenu, il était bien vivant. Voilà,
il était bien vivant, il l'a retrouvé. Mais ils s'entendaient pas très bien tous les deux. En tout cas, ces séjours à Mortefontaine vont marquer son enfance d'impressions indélébiles. Car non seulement la nature environnante y est pleine de charme, mais la maison de son oncle jouxte très exactement ce magnifique domaine dont le propriétaire n'est autre que Joseph Bonaparte, le frère aîné de Napoléon. Et Joseph a fait de ce château une demeure princière où il reçoit toute l'élite brillante et fortunée du Premier Empire. Napoléon et les siens, on le sait peu parce que Napoléon l'associe systématiquement à Fontainebleau, la Malmaison, les Tuileries, mais il a fait de très nombreux séjours à Mortefontaine, à tel point qu'il envisageait de le chipper à son frère et de reprendre aussi le château d'Hermenonville et d'y faire son propre palais. Mmh. Il aimait beaucoup cet endroit. Joseph Bonaparte y a beaucoup investi. Il a fait redessiner le parc.
C'est lui qu'on appelait Pépé la Bottiglia, Pépé la Bouteille.
Ah ça, je l'ignorais. Ah oui, alors vous me l'apprenez. Parce qu'il picolait, Joseph, beaucoup. Vous intéressez vraiment à des... Ah non, là, je veux dire
il
que l'alcool...
Il est venu roi d'Espagne.
Mais j'ignorais qu'il... Oui, alors qu'est-ce qu'il buvait en Espagne? Pas de la tequila, quand même, c'est ce qu'on boit.
Non, ça c'est au Mexique.
Alors ça, oui, c'est ça, mais en Espagne, quel est l'alcool? On boit du vin, surtout.
Oui,
on boit... Alors en tout cas, à Mortefontaine, il fait de gros investissements. Il fait créer des ponts, tours, ruines, grottes, fontaines, belvédères, souterrains et même une île artificielle au beau milieu d'un lac. Et c'est en ce splendide domaine de Mortefontaine que sont célébrés le mariage de Murat et Caroline Bonaparte. C'est pas rien, 20 janvier 1800, celui du prince Borghese et Pauline Bonaparte. Tout ça, c'est à Mortefontaine. Et c'est ici qu'est signé le traité d'amitié entre la France et les États-Unis, le traité de Mortefontaine. Célébré par une fête somptueuse de 1200 invités qui devaient s'égayer là dans leur tenue chatoyante dans le parc, ça devait être magnifique. Hélas, ou tant mieux pour les royalistes de votre acabit, Stéphane, et ben 1815.
Mais attendez, laissez-moi
tout tranquille. Tout le monde nous accuse de royalisme, c'est fou.
1815, c'est la chute de l'Empire, et Joseph Bonaparte doit fuir aux États-Unis et il laisse son domaine complètement à l'abandon. Mais comme l'oncle Antoine du petit Gérard habite à côté et connaît très bien l'intendant du domaine, un certain Bouchard, et ben il va s'y promener quand il veut. Et il emmène son neveu se balader dans ce parc féerique où croissent les herbes folles et dont les statues, les fontaines sont désormais envahies par la végétation. Ces lieux sont devenus silencieux, merveilleux, mystérieux. Et dans les allées désertes, le tonton Antoine raconte au petit Gérard, regarde là ici, j'ai vu passer Roustan, le mamelouk de l'empereur, et j'ai vu des équipages et des landaus magnifiques amener les invités. De quoi enflammer l'imagination d'un enfant. Et ça va pas rater. À la fin de sa scolarité au collège Charlemagne à Paris, Gérard choisit, contre l'avis de son père, de devenir écrivain et poète. À 24 ans, il travaille à une traduction du Faust de Goethe, salué d'ailleurs par l'auteur en personne. À 24 ans, traduire du Goethe et se faire féliciter par Goethe, c'est quand même pas n'importe quoi. Ça lui vaut une renommée précoce dans le monde littéraire. Il est présenté à Victor Hugo. Il participe en 1830 à la bataille d'Hernani aux côtés de la jeunesse romantique. C'est un homme qui va voyager dans de nombreux pays, Italie, Belgique, l'Allemagne, il voyage en Allemagne avec Alexandre Dumas. Bon, Rhodes, Smyrne et Constantinople, ça c'est pour le rêve et l'Orient. Mais on retrouve aussi et surtout dans son œuvre, eh bien, les beaux parcs de Mortefontaine et de ses environs, dans Promenade et Souvenirs, mais aussi dans Aurélia et dans Le Voyage à Cythère, où il évoque l'île artificielle créée par Joseph Bonaparte au milieu du parc de Mortefontaine. Ainsi, jusqu'à sa fin tragique à l'âge de 53 ans, son suicide par pendaison rue de la Veille Lanterne à Paris, 26 janvier 1855. Jamais l'illustre auteur du Soleil Noir de la Mélancolie n'oubliera les paysages de son enfance. Jeune homme, Quand résolu à vivre de sa plume, il avait dû choisir un pseudonyme. N'avait-il pas choisi le nom d'un modeste terrain que possédait sa famille à Mortefontaine, un humble petit clos nommé Nerval? Car Gérard Labruni, c'est Gérard de Nerval, poète nostalgique, douloureux, angoissé, submergé par ses démons, poète disparu, dont l'enfance fut enchantée par le vert paradis de Mortefontaine.
C'est beau.
Si vous voulez. Alors, ce qui est moins beau, messieurs, c'est que du temps du duc de Gramont, du temps de Joseph Bonaparte, le parc, l'immense domaine bien était sûr, accessible. Bien tout le monde pouvait s'y
aujourd'hui,
promener.
Aujourd'hui, on peut plus.
Ça appartient à un émir, dont qui doit y venir une fois par an et qui, dont ouais. la résidence principale est à Dubaï. On n'a plus droit d'y aller. Autant vous dire que ni Gérard de Nerval, ni le peintre Camille Corot qui a fait des toiles absolument merveilleuses de cette région, ne pourrait plus y fiche les pieds, ni y trouver l'inspiration.
Oui. Même alors, vous Stéphane, connaissez... vous n'avez pas été convié.
Connaissez mon gimmick emprunté à... est-ce que c'est Cicéron ou Caton qui dit au tempora, au mores, voilà.
Donc on c'est peut... l'un des deux.
Donc oubliez si vous voulez aller vous peindre à Mortefontaine, Mathieu, des fois que ça vous les mangerait.
Oui, je voulais, j'aurais bien voulu.
Oui, moi aussi, mais bon, il faut aller voir les Émirats Arabes Unis et demander à l'ambassadeur de nous inviter. Pour préciser quand même, merci Clémentine, c'était parfait. Pépé Botellia, Jojo la bouteille, Joseph Bonaparte.
C'est sûr, le côté sombre de l'histoire avec lui.
Roi de la cave, roi de la vinasse, comme on l'appelait.
Eh bien,
en fait, d'après les bonapartistes, enfin ceux qui défendent la mémoire des Bonaparte, il n'a jamais bu une goutte d'alcool. Mais non. En fait, c'est parce qu'un jour, comme roi d'Espagne, il avait confisqué une cargaison de Rioja. Et donc
on a utilisé pour
mais
lui.
Mais vous savez surtout que les Anglais, les officiers anglais... Oh, pardon.
Oui, non, allez-y.
Boivent du champagne dans un pot de chambre qu'ils ont piqué à la cour d'Espagne quand Joseph Bonaparte l'a quitté. Oui. Et c'est un challenge pour les officiers français. Ils le remplissent de champagne. Et si vous êtes un gentleman, vous buvez le contenu du pot de chambre. Et si vous êtes un plouc, vous le passez aux copains parce que vous n'êtes pas capable de le boire à vous tout seul. Et ça fait beaucoup rire les Anglais. C'est très célèbre, là, dans le...
Des anecdotes truculentes. Oui. Vous m'avez l'air tous les deux prêts pour le coup.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Comment deux êtres si complices et par ailleurs dotés d'un si bon goût,
l'amour a tout emporté,
peuvent-ils se déchirer autour d'un quiz de culture G, jouant ensemble à Bern to be alive? Première question, elle est pour vous Stéphane. Partons pour New York, ça fait longtemps. Oui. En 1930 a été construit l'American International Building, 290 mètres avec son antenne. Il a été l'édifice le plus haut du quartier, puis il n'a plus été l'édifice le plus haut, puis de nouveau, puis plus. Vrai ou faux?
C'est donc qu'on a construit une autre tour qui était plus grande, puis qu'on a détruit, puis ou qui a été détruite.
Voilà un raisonnement.
Elle aurait été détruite.
Pas
connaissance
qu'on
est détruite. Parce que tout dépend de l'époque à laquelle a été construit ce building-là. Oui.
Partons pour New York en 1930.
Ah,
en 1930 pour l'American International Building.
1930. Et l'Empire State Building, ça a été construit en quelle année?
L'Empire State Building, c'est plus haut?
Ça voudrait dire que celui qui est devenu plus haut à un moment aurait été détruit. Ou alors ça veut dire que sur ce building-là, ils auraient rajouté soit des étages, soit une flèche, soit quelque chose pour faire la compète. Vous savez comment dans cette ville de Toscane où il fallait avoir la tour la plus haute.
Je relis la question une fois pour essayer de ne pas vous piéger.
Il y a un piège.
C'est toujours possible avec moi. Partons pour
maintenant, on est sur des charbons ardents.
En 1930 a été construit l'American International Building. 290 mètres avec son antenne. Il a été l'édifice le plus haut du quartier. Puis il n'a plus été l'édifice le plus haut du quartier. Puis de nouveau plus l'édifice le plus haut du quartier.
Je dirais oui.
Oui, c'est possible du coup.
Vous avez gagné.
Je deviens beaucoup trop conciliant avec Stéphane, je le mets sur la bonne voie. En 1930, c'est la course au gratte-ciel à Manhattan. L'American International Building est le plus haut, puis plus. Les Twin Towers sont plus hautes.
Ah oui.
Et puis en 2001, et pour cause, le building redevient le plus haut du quartier. Et puis, dans ce même quartier, la Freedom Tower, achevée en 2014, est de nouveau la plus haute. Vous avez su déjouer le piège, Stéphane. Mmh. C'est tout à votre honneur. Et au mien. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Durant la première guerre, les animaux mascottes étaient courantes. La première brigade d'infanterie sud-africaine avait même dans ses rangs Jackie le babouin. Officiellement soldat, il avait un uniforme et des rations. Une fois la guerre achevée, il a reçu une pension et un formulaire d'emploi civil pour les soldats démobilisés. Vrai ou faux? On parle donc d'une mascotte. Hein.
Oh, il y a tellement d'informations là-dedans. C'est un, alors que qu'il y a eu des mascottes. Oui, ça, bien sûr. Beaucoup de chiens, sans doute des chats, peut-être des rats, sans doute aussi.
Il y a eu des chèvres.
Des pigeons, des chèvres mascottes.
Oui. Des brebis, oui, bien sûr, en Angleterre,
des chevaux. Ah, oui. Des... oui, moi, ça, je crois volontiers. Alors, qu'il y a eu un singe, oui, why not? Mais alors qu'on l'ait pensionné à la fin de la guerre, après tout, vous avez bien parlé de Choupette, ouais, qui a hérité de la fortune de Karl Lagerfeld. Et est-ce que des soldats reconnaissants envers leur babouin auraient pu obtenir une pension pour l'animal?
Vous savez, parfois c'est l'administration, hein. S'il est enregistré sous un matricule, il reçoit sa pension.
Donc vous m'encouragez à dire oui, ce que je fais.
Vous avez gagné.
Un sans faute pour l'instant aujourd'hui dans le quiz. Oui, Jackie le babouin a même dû être amputé de la jambe en 1918 en Belgique. Pour s'anesthésier, il a bu du chloroforme. Jackie le babouin, en 1919, est retourné avec son maître Albert Marr dans sa ferme près de Pretoria. Victime du syndrome post-traumatique de la guerre, il est mort d'une crise cardiaque suite à un orage en 1921. Son maître, lui, est mort en 73 à 84 ans. Rest in peace, Jackie le babouin. C'est une belle histoire. Question numéro 3. Stéphane, elle est pour vous. Un cénotaphe est un cercueil américain. Comprenez qu'on peut l'ouvrir aux trois quarts pour voir le défunt. On peut dire que Abraham Lincoln a été exposé au public à la Maison Blanche en 1865 après son assassinat dans un cénotaphe. Vrai ou faux?
Non, alors un cénotaphe, c'est autre chose.
Oui.
Un cénotaphe, c'est un monument funéraire dans lequel il n'y a
pas... vide.
Qui est vide, il n'y a pas de corps.
Bien sûr. Les Suisses qui sont morts aux Tuileries sont dans des cénotaphes, voilà, à la chapelle expiatoire de la rue d'Anjou.
Exactement. Richelieu, le fondateur, par exemple, il y a le cénotaphe à l'Académie française, mais il n'y est pas.
Alors, Richelieu est à la chapelle de la Sorbonne, si je puis me permettre. Sa tête a été conservée dans un petit... Ah, ça, évidemment, et désolé, mais je suis tellement experte sur ces trucs sordides, morbides. Voilà, donc ça...
Donc, un cénotaphe, il n'y a pas de corps dans le cénotaphe.
Son auriculaire qui est à l'Académie.
Oui.
Ben, Richelieu.
Vous avez gagné.
Et toc.
Et sans hésitation, et j'octroie 2 points. Bon, parce que là, on a eu la réponse. En plus, non seulement c'est faux, mais un cénotaphe est un cercueil vide. C'était ce que j'étais censé vous révéler. Vous étiez censé me dire, oh non, pas possible. Mais vous connaissiez déjà tout ça. Pourquoi? Taphos, tombeau, kénos, vide. Quand Jean Moulin est entré au Panthéon, c'était un cénotaphe puisqu'il était vide. Seules les cendres sont au Panthéon. Et en plus, ce sont ces cendres présumées. Personne ne peut apporter la preuve formelle que ce sont vraiment les vraies cendres de Jean Moulin. 2 points pour Stéphane qui prend donc la main. Attention,
oh, donc,
attention.
Il y a de la vue, là.
Mais vous aussi, tout vous pouvez marquer 2 points.
Tout se joue. Sur la question 4. Chauderlot de Laclos, le célèbre auteur du roman épistolaire Les Liaisons Dangereuses, n'avait rien de Valmont. Il était, paraît-il, maigre et jaune à la conversation froide et méthodique. Ma question est la suivante. Est-ce que l'écrivain, Chauderlot de Laclos, a pu regarder Fort Boyard? Je parle du vrai Fort, pas de l'émission télé avec le père Fouras.
Alors Chauderlot de Laclos, en effet, était militaire, il était soldat. Il a été essentiellement en garnison à Grenoble, et c'est à Grenoble qu'il a écrit Les Liaisons Dangereuses. Il a rencontré Stendhal, qui à l'époque s'appelait Henri Brulard. Il s'est inspiré de personnages grenoblois.
Je vous interromps, Caroline, pour vous dire que, vu le torrent d'informations que vous nous donnez là-dessus, vous aurez 2 points si vous apportez la bonne réponse.
Oui. Bon,
si,
donc
la bonne
moi, réponse. Je pense que oui, il a pu voir le Fort Boyard. Je ne pense pas qu'il y soit forcément allé, parce qu'il a été en garnison tout à fait, dans des régions tout à fait différentes, me semble-t-il. Mais que le Fort Boyard ait déjà été édifié à l'époque, je pense. Je réponds oui.
Oui, mais vous répondez oui, mais si je peux me permettre, il pourrait y avoir un piège dans la question.
Ah, d'accord. Donc là, il veut qu'on fasse la question 5.
Non, mais elle a eu raison de répondre spontanément.
Aurait-il pu voir le Fort Boyard? Boyard, c'est un fort du... Est-ce que c'est un fort du 19e?
Mais non, bien sûr, c'est un fort du 19e. C'est un fort Napoléon III.
Fort Boyard, c'est Napoléon III. Bon, ben voilà, ben j'ignorais ça, donc il n'a pas pu voir le Fort Boyard. Donc la réponse est non.
Vous avez gagné.
Merci Stéphane.
Vous avez gagné, et merci moi aussi, parce que tu partais pour dire oui. Donc non, mais en revanche, Stéphane perd 6 points, puisque le Fort Boyard n'est pas un fort Napoléon III, pas du tout. Le Fort Boyard.
C'est un fort républicain, puisque c'est...
Le Fort Boyard.
On écoute.
Si je perds mes 6 points, alors là, je ne joue plus.
Chauderlot de Laclos est mort en 1803. Le fort a commencé à être construit en 1804, Stéphane.
Ah, ah
bah, 1804.
Ah, bah,
oui, oui, Napoléon II, Napoléon III.
L'arnaqueur.
Ouais, 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 bon, ouais. Vous ne perdez
moi,
pas vos points.
Je pensais que c'était édifié au 18e.
6 points partout.
Qui, alors, 18 à 18. Qui a fait Fort Boyard autour de cette table, Stéphane?
Jamais.
Comment, vous n'avez jamais fait Fort Boyard?
Jamais, j'ai toujours refusé.
Mais pourquoi?
Parce qu'il y a
c'est
des
rigolo.
Bêtes.
Ah oui, moi ça, je comprends ça, c'est impossible. Les bêtes et les gros vers, là, manger des vers géants.
Vous cochez, avant de faire l'émission, oui, vous cochez une décharge médicale.
Non, mais ça, c'est pas vrai. Mais ils n'en tiennent pas du tout compte. Tous mes copains qui l'ont fait, ils m'ont dit, attends, on n'en tient pas compte.
Ni les araignées, ni les serpents, ni les vers, ni les rats. J'ai le vertige.
Et vous n'allez pas sous l'eau.
Et je passe sous l'eau.
Donc vous ne pouvez rien faire.
Rien.
C'est un grand regret.
Je reste chez moi.
Et vous regardez les autres.
Mais à distance, moi, je réponds aux questions du père Fouras, je suis quand même pas mauvais. Mais de là, aller.
Justement.
Dans le vide au milieu du fort.
Cette ultime question est digne du père Fouras. Question numéro 5 pour tous les deux, c'est la question de rapidité, on écoute bien les propositions. Charles Tellier est l'ancêtre de la conservation par le froid. En 1876, avec un Uruguayen, ils ont transporté pour la première fois de Rouen à Buenos Aires pendant 3 mois du bœuf dans un voilier spécialement conçu pour l'occasion. À l'arrivée, tout était comestible. Comment s'appelait le voilier? 3 propositions. Le Friofria, le frigorifique, le Vivagel.
Le frigorifique.
Alors, nous avons le frigorifique à réponse et votre réponse est validée. Le frigorifique. Le frigorifique. Alors, c'est étonnamment, la bonne réponse n'est pas le frigorifique. Mais le frigorifique. Mais il a tenté d'arracher la victoire en se plantant encore. C'est terrible. C'est une humiliation aujourd'hui pour Stéphane dans le quiz.
Oh non,
il a tenté le tout pour le tout.
Bah,
il a perdu.
Oui.
Victoire de Clémentine Portier-Keltenbach.
Bravo, Clémentine. Alors, cela dit, on a appris à.
Et oui.
Parce que vous avez l'air comme ça très savant avec vos fiches. Mais je vous ai quand même appris ce qu'était un cénotaphe.
Oui, c'était très intéressant.
Et
vous voyez Chauderlot de Laclos qui écrit un truc torride, ben c'est un soldat, c'est un militaire, effectivement, c'est un homme relativement austère. C'est un héros de Valmy à côté de ça, bien sûr.
Mais ce n'est pas de Valmy,
c'était
supplémentaire.
Pas quelqu'un, c'était un
ce serait des points posthumes, là.
Attention, Stéphane, attention, je peux vous retirer certaines victoires que vous avez eues dans le quiz pour le point final. Si, à la fin de la saison, on aura le grand vainqueur. Il faudrait vous rattraper. Alors, je vous raconte l'histoire. Peu doué pour les affaires, il n'a jamais fait fortune, ce Charles Tellier, mais il a non seulement été l'un des précurseurs d'une technique industrielle qui sera universelle au XXe siècle, et en plus, il a été cité dans un quiz historiquement vôtre, et ça, pour tous ses descendants, c'est évidemment la classe. Il nous écoute.
On les salue.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement Vôtre, 2 heures où le plaisir du savoir se conjugue avec la bonne humeur, n'est-ce pas Mathieu?
Absolument.
C'est vous la bonne humeur.
C'est vous aussi. D'ailleurs, une étude le prouve. Après une dure journée de travail, 87% des personnes interrogées disent se sentir mieux à l'écoute de notre émission. Un pourcentage qui tombe à 22% chez les dépressifs chroniques qui ne cochent pas la case « je me sens mieux », mais...
J'ai quand même envie de me suicider, mais pas tout de suite.
Ce qui est déjà pas mal, on peut être fier, Stéphane.
Ah oui. Alors, au programme cet après-midi, Mathieu, 3 personnages qui pouvaient être fiers, eux aussi. 3 poètes disparus. Après Ronsard, je vais revenir sur le destin de Serge Gainsbourg, destin émouvant, à l'instar de celui de notre 3e personnage du jour, qui vous est destiné, en quelque sorte, c'est Robin Williams.
Oui, vous me disiez hors antenne, j'avais oublié qu'il était mort.
Mais oui.
Mais moi aussi, finalement, avant de préparer cette chronique. Encore un poète disparu trop tôt, Stéphane. Oui. Le problème de Robin, c'est qu'il était comme David Castello-Lopez, il était vif. Il était drôle, il était sympa, mais il était aussi complètement dépressif. Pas de nature, lui, mais suite à une rarissime maladie qui l'a frappé sur la fin de sa vie. J'espère que ce portrait que je vais vous livrer vous permettra de mieux le connaître, mais surtout vous incitera à prendre soin de David.
Alors, sans oublier justement nos célèbres chroniques, David Castello-Lopez est là avec nous. Il nous raconte chaque jour les origines d'une invention, de quelque chose de notre quotidien. Et aujourd'hui, on va parler un peu d'argent.
Tout à fait, du SMIC. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y a depuis?
À vos côtés, de l'argent, il en a énormément.
Ah,
il
oui.
peut acheter toutes sortes de champignons, souvent des truffes d'ailleurs. Mais parfois, il lui arrive d'acheter des champignons de Paris.
Bah, celui que vous ne croisez pas dans les bois, en fait. C'est un champignon qui pousse sous la terre, enfin sous le sol. Des champignons de couche. Et méfiez-vous des imitations, parce que du vrai champignon de Paris, il n'y en a plus beaucoup.
Il n'y en a plus beaucoup. Ils viennent de Pologne. Les champignons de Paris sont de Pologne, en fait, quand vous achetez dans le commerce.
Voire de plus loin que ça encore.
Ah, plus loin encore.
De Chine.
Ouais.
Les champignons de Chine, parfois
le premier producteur mondial de champignons de Paris, c'est la Chine.
Incroyable. Et puis, le mot de la fin, Stéphane, oui. C'est vous. Il aurait chaque jour l'histoire d'une expression. Aujourd'hui...
Non, mais ça fait des lustres que vous me posez cette question.
Ça fait des lustres que je ne comprends pas pourquoi que vient foutre le mot lustre dans cette expression.
Oui, et bien justement, ça veut dire ça fait longtemps. Ben ça fait des lustres. C'est combien un lustre ?
C'est combien un lustre ? Combien d'années ? On le saura en fin d'émission. Mais tout de suite, découvrons notre deuxième poète disparu du jour. Stéphane Bern nous raconte Serge Gainsbourg.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous sommes dans le quartier parisien de Pigalle, à l'aube des années 50. Lucien Gainsbourg déambule sur la place, une guitare sur le dos et un carton à dessin sous le bras. L'étudiant des Beaux-Arts se fait un peu d'argent le soir en jouant quelques notes dans les cabarets du coin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Lucien ne s'y sent pas comme un poisson dans l'eau. Chez Madame Arthur, un cabaret burlesque réputé pour ses numéros transformistes, le petit bourgeois timide fait tache dans le décor et l'ambiance délurée. Son style de jeune homme de bonne famille, qui n'a encore jamais porté un blue jean, offre un contraste amusant avec les danseurs travestis qui l'entourent. Lui travaille la musique depuis l'enfance, une heure de piano par jour aux côtés de son père, qui l'a bercé aux notes des plus grands virtuoses. Dans le gramophone de l'appartement familial, il faisait tourner les disques de Stravinsky, Debussy ou Chopin. Mais pour le moment, la vraie passion de Lucien, sa seule ambition, c'est la peinture. Pour lui, c'est l'art majeur, celui qui dépasse de loin les plus belles partitions. Alors, avec quelques billets en poche, il se paye pinceaux, crayons et couleurs pour s'enfermer dans son petit atelier mansardé tout près de l'avenue Foch. Là, noyé dans les volutes blanches de ses cigarettes, il crayonne, il corrige, il peint. Mais bientôt, Lucien écrit aussi. Dans son petit carnet, il écrit des chansons pour les interprètes populaires, histoire d'encaisser quelques droits d'auteur en déposant ses œuvres. En fait, Gainsbourg manie les mots aussi bien que le pinceau, et les années passant, les espoirs de gagner sa vie grâce à ses toiles s'amenuisent, tandis que l'idée de devenir chanteur fait son chemin. Lucien a eu le déclic en écoutant un poète des 50s un soir de 1954, alors qu'il est embauché comme pianiste-guitariste au Miller Larsouille, un cabaret coté de la rive droite. Gainsbourg est subjugué par la prestation de Boris Vian, par ses textes, par sa présence hallucinante, par son cynisme aussi. Ce qui était un simple gagne-pain devient une vocation. Cet art mineur, il en fera quelque chose. Lucien Gainsbourg brûle ses toiles et se meut dans Serge Gainsbourg.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas.
Il y chante un personnage bien connu des Parisiens pressés, le poinçonneur de la RATP. Mais sur la scène du Milord, Serge Gainsbourg est tétanisé par le trac et n'adresse pas un regard au public. On se moque un peu de ce gringalet triste, de son nez siranien, de ses immenses oreilles décollées. Serge ne trouve qu'un remède au trac, c'est l'alcool. Pour autant, l'ivresse ne suffit jamais à évacuer cette peur viscérale de la scène. Il faut toujours une dose de plus, alors cette scène, il l'abandonne un temps. Mais le petit carnet est toujours à portée de main. Il le griffonne à coups de rimes, de jeux de mots et d'onomatopées. Son écriture sans ponctuation livre des textes aux grands noms de la chanson française, à commencer par la muse de Saint-Germain-des-Prés, celle que tout le monde s'arrache, j'ai nommé Juliette Gréco.
Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
Voilà les premiers succès du poète désinhibé et des chansons pour les autres. Serge Gainsbourg écrit pour les femmes, pour Françoise Hardy ou pour France Gall. Mais il en est une autre à qui Serge voudrait écrire des chansons. C'est la blonde la plus célèbre du monde. Ses initiales, bébé. Déterminé à la séduire, Serge décroche son téléphone pour appeler Brigitte Bardot. Et ce jour-là, la belle et la bête s'enivrent à coups de champagne devant le micro. C'est le début d'une passion de 86 jours. Une nuit, elle lui demande d'écrire la plus belle des chansons d'amour. Le matin, au premier rayon, la voilà couchée sur le papier. Le résultat, 4 scandaleuses minutes de râles amoureux.
Tu vas et tu viens. Entre mes reins.
Un matin des 70s, alors qu'il enfile ses répétos blanches pour filer en studio, Gainsbourg est pris d'un malaise. Son cœur appelle à l'aide. Mais en attendant les secours, l'homme à la tête de chou ne perd pas le sens des priorités. Il a beau suffoquer, Gainsbourg n'oublie pas de fourrer plusieurs paquets de cigarettes dans son attaché-caisse. Que ferait-il sans ses fidèles brunes, la gitane et sa meilleure amie? Il en consomme minimum 20 par jour. Les jours gris, c'est plutôt 50. Pendant sa convalescence à l'hôpital, il trompe l'ennui en convoquant les journalistes à son chevet et persiste. Il se soignera, un cocktail à la main, une cigarette dans l'autre. Les excès font des ravages et pas seulement sur sa carcasse abîmée. Gainsbourg l'aimait depuis 12 ans, mais Jane Birkin est partie. Elle a quitté le 5 bis de la rue Verneuil pour ne plus jamais y remettre les pieds. La peur inspirée par le sombre Gainsbourg a pris le dessus sur l'amour qu'elle portait à Serge. D'autant que ce double éthylique prend de plus en plus de place. Gainsbourg l'avoue, il a mis un masque qui lui colle si fort à la peau qu'il n'arrive plus à le retirer, celui du poète maudit. La décennie 80 est celle de tous les excès, de toutes les provocations. Gainsbourg s'exhibe en homme négligé avec sa barbe grisonnante de 3 nuits et son air jamais vraiment sobre. C'est que tous les soirs, le pastis 51 coule à flot et plonge Gainsbourg dans des mondes parallèles. Les policiers du quartier sont devenus de bons copains. Il ramène souvent le noctambule éméché à domicile. Il paraîtrait même qu'un brigadier le trousseau de clés. En fait, depuis sa version scandaleuse de la Marseillaise en reggae, Serge est habité par la mélancolie. Il se sent artiste incompris.
Allons en fond de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous, de la tyrannie.
Mais Serge Gainsbourg retrouvera toujours sa plume et son piano. Ce Steinway sur lequel un portrait de Frédéric Chopin côtoie une photo du bassiste héroïnomane des Sex Pistols. Cette association est à son image. Imbibé de culture classique, Serge Gainsbourg a toujours aimé faire du neuf avec du vieux. Écoutez Poupée de cire, Poupée de son, vous y entendrez du Beethoven. Écoutez encore Initials BB, vous reconnaîtrez peut-être Antonin Dvorak. À force de provoquer la faucheuse, elle finit par surprendre le poète. Son cœur, qu'il appelait sa pompe à malheur, dit stop pour de bon. Serge Gainsbourg avait écrit dans un livre qu'il essayerait de rejoindre Arthur Rimbaud, qu'il le retrouverait un jour. C'était il y a tout juste 30 ans, le 2 mars 1991. Depuis, qu'il soit scandaleux ou sensible, on n'a jamais cessé de fredonner les vers de Serge Gainsbourg, poète du XXe siècle qui s'en est allé.
Je suis venu te dire que je m'en vais.
Alors Stéphane, vous connaissez merveilleusement bien Serge Gainsbourg, mais je crois savoir qu'une personne le connaît encore mieux que vous. Cette personne, c'est Jane Birkin, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Jane.
Bonjour.
Bonjour Jane Birkin. Alors que Serge Gainsbourg fasse toujours parler de lui 30 ans après, honnêtement, ça l'aurait beaucoup amusé. Est-ce qu'il voulait passer à la postérité, comme on dit, ou est-ce qu'il aurait dit « laissez-moi tranquille maintenant »
Il n'était pas un prétentieux, donc je ne sais pas, je sais que ça l'aurait énormément touché que 30 ans après, c'était même plus qu'il y a 20 ans, c'était même plus qu'il y a 10 ans, c'était... Donc je crois que tout le monde a compris le fait probablement qu'il a changé le langage français et que... mais de sa personne, la passion Gainsbourg est quelque chose qui grandit d'année en année.
Jane Birkin, vous ne bougez pas en cette journée très spéciale. On continue de parler de Serge Gainsbourg avec vous dans un instant sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre et nos poètes disparus continuent. On parle de Serge Gainsbourg avec celle qui a été tout à la fois sa muse, sa compagne, son interprète, celle pour qui ou avec qui il a chanté, l'icône Jane Birkin qui nous fait la joie d'être avec nous cet après-midi, Stéphane, en cette journée si particulière.
Oui, Jane Birkin, vous avez tout partagé avec Serge Gainsbourg, la vie, la scène, le micro, le public, les succès, l'écran. Il y a quelque chose qu'il n'a gardé que pour lui et n'a jamais voulu partager avec vous ?
Oui. Il n'a pas pu partager son amour pour le jazz parce que je le comprenais pas. Et il se retenait de mettre les disques de jazz parce que la musique classique, j'adorais. Du genre, voilà. Mais le jazz, ça me rendait très mélancolique et finalement, le disque qu'il aurait fait s'il avait vécu, il était prêt de partir pour la Nouvelle-Orléans pour faire un disque de jazz Et voilà, 30 ans après, je comprends. 30 ans après, tout le monde aime ça. Et lui, il avait 30 ans d'avance.
Comme dans beaucoup de domaines. Vous avez chanté des textes de Gainsbourg. Vous en avez lu aussi sur scène, Jane, il y a quelques années, dans un spectacle qui s'appelait « Gainsbourg, poète majeur ». En quoi était-il un poète majeur pour vous ?
Comme il disait lui-même, le langage français était là pour être réinventé. Et quand on voit les passages où il est en train de jouer à Londres, bien avant moi, hein, quand il faisait Black Trombone, toute cette période anglaise qu'il avait, eh bien, personne faisait ça. Il a intégré toutes les mots anglais, les rimes, et sa façon d'écrire, c'est un peu comme Cole Porter. Il coupait un mot en deux et il balançait sur la ligne prochaine. C'était une façon d'écrire, comme vous avez à l'interpréter. C'est extraordinairement compliqué parce qu'il hache les mots avec les virgules en l'air et c'est une poésie moderne absolument fulgurante.
Chez tous les grands poètes, il y a une part de mystère qui permet de laisser le sens entrouvert. Est-ce qu'il y a des chansons de Serge Gainsbourg qui restent encore énigmatiques à vos yeux ?
Il y avait des textes qu'il m'avait écrits que je n'avais pas encore compris, dont « Amour des feintes ». Je ne savais pas ce que ça voulait dire, « feinte ». Et je découvrais, parfois des années après, la complexité de sa pensée. J'ai fini par comprendre, mais j'étais lente.
Jane, quand on vous entend chanter certaines chansons qu'il vous a écrites, parfois on oublie que ce sont ces mots et donc ce sont aussi ces projections, ces fêlures, ces peines de cœur qu'il expose, comme sur Baby Alone in Babylon, qui est un album écrit par un homme quitté.
Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, avoir parfois envie de prier sauve, qui peut savoir jusqu'au fond des choses et malheureux.
Est-ce qu'il y a des chansons de Serge que vous avez plus envie de chanter que d'autres aujourd'hui, ou certaines au contraire qui sont plus dures à chanter?
Oh, en fait, j'aime les tristes. J'aime tous ceux qui m'a écrit finalement quand j'étais partie, comme les deux sushis que fait le bonheur. Je trouve que c'est des plus merveilleux. Quand j'étais avec Étienne Dao l'autre jour, il a dit que c'était les chansons que Serge m'a écrit à cette période-là, justement, étaient ceux qui donnaient envie à lui de les reprendre. Mmh. Alors, j'étais conscient que je chantais son côté féminin et que le tout faisait lui, que lui pouvait faire You're Under Arrest et à moi, il me donnait Amour des femmes. Mmh. Et c'était une situation étrange qui me demande à moi de chanter ses peines à lui que j'ai quelque part créées.
À propos d'Étienne Dao dont vous parlez, vous revenez, Jane, avec « Oh pardon, tu dormais », un album pour lequel vous êtes bien entouré, commencé par lui, et c'est lui qui vous a aidé à accoucher de cet album. Ce qui est fou à l'écoute de ce titre éponyme, c'est qu'il a des accents gainsbourgiens.
« Oh pardon, tu dormais ?»«
Je ne dors plus, tu vois bien. » »«
Le moment est parfait pour me dire si tu m'aimais, si tu m'aimais. »
D'ailleurs, les paroles sont inspirées de votre propre journal intime. Serge Gainsbourg vous suit et vous accompagne inexorablement de façon, au fond, plus ou moins inconsciente. C'est conscient ou inconscient ?
Oh ben, je n'ai pas pensé à lui quand je faisais « Oh pardon, tu dormais ». C'était plutôt une nuit de cauchemar avec quelqu'un d'autre. Par contre, le troisième personne, parce qu'il y a quand même un portrait de quelqu'un que j'ai blessé, je me mets à juste à cette distance de ne pas entendre pleurer. Ça, c'était inspiré par lui. Mais Étienne n'avait pas voulu être influencé par Serge, pour la musique, un peu par John Barry, il m'a dit, mais par le fait que c'est ma voix, je suis associée automatiquement. Donc c'est un fait psychologique pour les gens. Quand je chante, c'est lui. Alors il est là dans tout, mais ce dialogue était bien plus simple que les textes qu'il a écrits.
Dans ce journal intime dont on parlait, vous parliez de lui souvent, en bien, en mal aussi. Qu'est-ce qu'on y trouve ?
Il y a, j'espère, des moments de charme intense quand je vivais avec lui, parce qu'une personne plus drôle et plus inattendue et plus charmant et original, vous ne pouvez pas trouver. quand on parle, il y a des ruptures qui sont dramatiques et le disque, c'est autre chose parce que le journal intime, vous écrivez la nuit quand vous n'arrivez pas à dormir pour mettre sur papier les dérangements que vous avez dans la tête. Alors que, wow, ceci dit, les chansons, c'est un peu ça aussi. Mais maintenant que j'explique que c'est différent, c'est pas si sûr.
Jane, on parle de vous souvent comme une muse, c'est le mot qui revient le plus souvent, mais c'est oublier à quel point vous avez vous-même carrément modelé quelque part Serge Gainsbourg, que ce soit en le relookant, avec il paraît que la barbe de trois jours, c'est vous, les pieds nus dans les répétos aussi, ou en intervenant dans son processus de création artistique. C'est quoi le leg ou l'empreinte que vous avez laissé chez Serge Gainsbourg, dont vous êtes le plus fier?
Je suppose Melody Lensol, malgré tout. C'était peut-être ça le moment le pour lequel j'ai le plus de fierté, parce que le disque est tellement avant-garde. C'était des choses que j'avais inspirées sans doute. Lui, c'était juste un modèle magnifique à habiller, parce que comme il n'avait pas de poils, c'était très joli de mettre des décorations féminines des vieilles russes autour de ses poignets en diamant.
Ou mettre
des saphirs autour de son cou. C'était merveilleux parce que c'était d'une sophistication comme il était. Et ça lui allait à ravir. Mmh. Et après les jeans et le haut, par contre, d'un costume de d'hommes et les petits répétos, parce qu'il avait des chevilles très fragiles et puis il n'aimait pas marcher, il prenait des tacos pour absolument tout. Donc de trouver ce père extraordinairement douce pour les ballerines, il ne l'a jamais quitté en effet. Mais maintenant qu'on regarde, il était déjà magnifique quand même quand il était avec Bardot, ils ont fait le show Bardot, j'ai regardé l'autre nuit et il était déjà somptueux. C'était vraiment ces années-là, même sa voix, il a trouvé cette façon de parler, chanter et quitter le voix de tête qu'il aimait tellement pas.
Mais et justement, James, voilà, c'est vous qui avez soufflé à Serge Gainsbourg de prendre Je t'aime moi non plus un octave plus haut.
Ben, je l'ai chanté automatiquement en octave plus haut parce que j'avais une voix qui montait facilement.
Oui.
Et il avait trouvé ça juste bien. Il ne m'avait pas corrigé. Il a dit « Ah oui, ça apporte quelque chose d'autre. » Mais c'était une erreur de ma part de chanter un octave au-dessus.
En tout cas, quoi, c'est une chanson d'amour dont Serge Gainsbourg parlait même ici au micro d'Europe 1. On l'écoute.
C'est-à-dire que je suis incapable de dire « Je t'aime, moi aussi. » Mais j'ai écrit « Je t'aime, moi non plus. » Parce que je peux pas écrire une chanson d'amour où je ne jouerai pas avec les mots. C'est une forme d'impuissance sentimentale.
En tout cas, Brigitte Bardot, elle est passée à côté d'un succès international, elle.
Pas sûr.
I'm not sure about that, man.
No comment?
Je sais qu'avec Jane, nous avons été numéro 1 en Angleterre, avant les Beatles, Dylan et Stones.
Cet extrait et de nombreuses autres archives inédites sont à retrouver, et d'ailleurs ce soir dans le documentaire réalisé par Julien Tarot, Gainsbourg Forever, c'est dès 20h dans Musique, avec Émilie Mazoyer qui continuera à célébrer le poète en chanson et avec les confidences de Lulu Gainsbourg, Dany ou encore Alain Chamfort.
En tout cas, Jane Birkin, on vous retrouve en chanson dans votre nouvel album Oh pardon, tu dormais, et on espère très vite sur scène. Mmh. En tout cas, merci mille fois, Jane, d'avoir été avec nous cet après-midi pour célébrer celui que vous avez tant aimé et qui vous a tant aimé aussi.
Merci beaucoup.
Je t'embrasse.
Bye
à bientôt,
bye.
Jane.
Bye-bye.
16h-18h sur Europe 1, Stephen Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque les poètes disparus de l'histoire. Après Pierre de Ronsard et Serge Gainsbourg, Mathieu, l'heure de notre tranche de rire est arrivée. Vous vouliez nous parler de Robin Williams.
Ah oui, Stéphane, de la pure déconne en perspective, des barres de rire en cascade, du lol à foison, du PTDR à chaque étape de la biographie hilarante de cet acteur qui nous a bouleversés dans le cercle des poètes disparus et qui a fini par se pendre avec une ceinture HM quand il a réalisé qu'il était atteint d'une maladie dégénérative rarissime qu'aucun traitement ne pourra ralentir. partir et que donc le suicide était la seule option s'il ne voulait pas finir comme un légume. Ah oui, vraiment, on va bien se marrer. Alors l'histoire est belle, ça finit bien. À ce curieux détail près, évidemment, qui, je le sens, vous a choqué, Stéphane, pourquoi une ceinture H&M ?
Donc en fait, il était pauvre ?
Pas forcément, Stéphane, il était peut-être tout simplement simple, je vous expliquerai. Alors, Robin
moi-même,
Williams...
j'ai une ceinture H&M au moment où
c'est
je vous parle.
Vous pouvez le prouver ?
Oui, bien sûr.
Oui,
regardez.
Oui, on va. Vous
ah non, c'est
montre.
Pas H&M, c'est Uniqlo.
Uniqlo, c'est
la boutique
c'est
à côté.
Pas,
non, c'est pas
plus cher.
J'ai raison, Stéphane.
C'est pas plus cher.
Je vous dis bravo. Alors, Robin Williams n'est plus, mais en revanche, il est toujours dans nos cœurs. Personnellement, je n'oublierai jamais le moment où j'ai appris sa mort. J'étais en train de manger un Kit Kat sur le parking d'une station Shell. Et je vous assure, Stéphane, que pour un homme de ma génération, perdre Robin Williams, c'est quelque chose. Avec David, on pensait que Robin Williams serait toujours là, comme un enfant suppose que ses parents sont toujours là, sauf que non. Car, vous le savez désormais, Stéphane, la vie est une...
Catin.
Exactement. Robin McLaurin Williams vient au monde à Chicago le 21 juillet 1951. Son père, Robert, est cadre chez Ford, et Lori, sa maman, est une ancienne mannequin. C'est d'abord en cherchant à attirer son attention, puis celle de ses petits camarades de classe, que le jeune Robin, élève brillant, va développer ses dons d'humoriste. Il est le comique de la classe, mais aussi le premier. C'est pourquoi il envisage d'abord un cursus classique. Il commence à étudier les sciences politiques avant de se lasser et décrocher une bourse pour la prestigieuse Juilliard School de New York, le Harvard du spectacle, si vous voulez. Il fait partie des meilleurs élèves et devient pote avec Superman. Enfin, celui qui deviendra Superman, Christopher Reeve, qui dira de lui « Robin avait le débit d'une mitraillette, je n'ai jamais vu autant d'énergie contenue dans une seule personne, dire qu'il était à fond serait un euphémisme majeur. » En 76, Robin quitte New York, direction...
La Californie.
À Los Angeles, dans les années 70, Robin écume les clubs de stand-up et se fait repérer. Avec son phrasé hyper speed et son don pour l'impro, il sort rapidement du lot, on commence à le voir sur les plateaux télé, puis il fait ses débuts dans la fiction, dans la série Happy Days. Où il incarne, je sais pas si vous vous en souvenez, un extraterrestre prénommé Mork. Oui, bon, ça c'est la version française. Personnage truculent qui débouchera sur un spin-off, le sitcom Mork and Mindy sera le terrain de jeu idéal pour Williams qui use et abuse de ses talents d'improvisateur. Les scénaristes laissent même délibérément des blancs dans le scénario pour qu'il puisse les remplir. Cette série sera son tremplin vers le cinéma et hélas aussi, c'est un package à l'époque, vers la cocaïne. La cocaïne, c'est Dieu qui vous dit que vous gagnez trop d'argent, dira Robin. Comme toutes les stars des années 70 qui se respectent, il aura droit à quelques séjours en rehab, mais... Est-on vraiment une star mondiale si on n'est pas passé au moins un petit séjour en désintox au cours de sa carrière ? Non, Stéphane, une séance d'hydrothérapie du côlon dans un hôtel spa de Saint-Malo, ça ne compte pas. Robin Williams justifie un peu ce recours aux drogues par l'insoutenable stress auquel est confronté alors le comique se livrant au stand-up. C'est un monde brutal. Un jour, ils sont au top, le lendemain, c'est quelqu'un d'autre. Parfois, ils deviennent aigris. Parfois, ils abandonnent tout simplement. Parfois, ils ont comme une épiphanie et ils tentent un comeback. Parfois, ils se brisent. La pression est constante, expliquait Robin. Difficile aussi de se concentrer quand vous enchaînez trois mariage, deux divorces et trois enfants. Sa carrière au cinéma décolle pourtant dans les années 80. Après Le Monde selon Garp, Robin décroche son premier rôle dans Morning Vietnam, où il incarne un militaire animateur radio haut en couleur. Barry Levinson, le réalisateur, lui donne carte blanche. La plupart de ses répliques sont de l'impro total. À la clé, un film culte. Ça ne sera pas le seul, puisque le deuxième rôle marquant de Robin Williams n'est autre que celui de John Keating, le professeur d'anglais qu'on aurait tous voulu avoir dans Le Cercle des Poètes Disparus. Qui fait partie de ces films qui peuvent changer une vie. C'est par exemple en le visionnant que je me suis fait la promesse de ne jamais devenir expert comptable ni fonctionnaire à l'OCDE. C'est pourtant ce que mes parents voulaient. Il faut tomber sur le bon film au bon moment. Par exemple, si vous avez 15 ans aujourd'hui et que faute de cinéma, vous n'avez pour seul échappatoire fictionnel que Camping Paradis, question développement personnel, vous êtes baisé. Non, ne nous moquons pas des millénials, Stéphane, soyons charitables. Après avoir fait de nous des poètes, Robin nous a également émerveillés dans des films grand public, certes, mais où il apportait toujours sa touche d'originalité, comme Hook, ou Les Nouvelles Aventures de Peter Pan, ou encore Jumanji, où, piégé dans un jeu de société un peu trop réel, Robin fuit devant des animaux sauvages en s'écriant... Non, on n'a pas les droits d'auteur de Jumanji, Stéphane, s'il vous plaît. Robin fuit devant des animaux sauvages en s'écriant...
Gangourou, gangourou.
Voilà, on s'y croirait. Magnifique. Robin Williams, c'est aussi bien sûr le génie génial d'Aladin. Un rôle pensé pour lui qui va pourtant refuser dans un premier temps. En effet, il ne veut pas être associé, Robin, au merchandising, pratique ultra lucrative lorsque Disney sort un film sur les écrans. Il finit par accepter sur certaines conditions. Je le fais pour mes enfants, mais le deal est clair. Je ne veux rien vendre, que ce soit chez Burger King ou ailleurs. Quelques mois plus tard, les figurines et les peluches à l'effigie du génie s'arrachent. Robin est furieux, envisage d'attaquer Disney, qui décide alors d'apaiser les tensions en lui envoyant quoi, d'après vous, Stéphane ? Une boîte de Mon Chéri ?
Un beau chèque ?
Un Picasso.
Hein ?
oui, voilà. Et à Picasso, étrangement, Robin se sent tout de suite plus à l'aise avec l'exploitation mercantile de son personnage et abandonne toute idée de poursuite contre Disney. Évidemment. Comment ensuite ne pas évoquer Mrs. Doubtfire? Simplement en ne l'évoquant pas, me direz-vous, mais je vais le faire quand même. Robin Williams joue un père divorcé qui se grime en une nounou d'un certain âge afin de pouvoir passer plus de temps avec ses enfants. C'est là une des performances d'acteur les plus éblouissantes de sa carrière et l'un des travestissements les plus drôles de l'histoire. Avec la foi, évidemment, où Poul s'était déguisé en Catherine Lara pour une enchoyade naturiste au Cap d'Agde.
Je suis la roqueuse de diamants.
C'était sympa aussi, hein. Bon. Toujours très investi dans ses rôles, Robin avait décidé de tester la crédibilité de son déguisement en entrant dans un sex shop habillé en Madame Doubtfire. Il a ainsi réussi à demander quelques conseils concernant un ustensile à deux bouts, juste avant d'être reconnu et de se faire sortir de la boutique. Il raconte cependant avoir pu acheter du lubrifiant parfumé. Ça sert toujours, vous le savez, Stéphane. Comique,
mais pas
que.
Pourquoi vous tournez vers
moi? Oui, enfin, j'aurais pu me tourner vers
David.
Le lubrifiant, en tout cas, sert toujours, surtout s'il est parfumé. Comique, mais pas que. Robin Williams aura également prouvé qu'il était un grand acteur tout court sous la direction de Terry Gilliam et surtout dans Good Will Hunting, cet autre film culte, dans lequel il incarne un psychiatre qui encadre un jeune homme troublé, joué par Matt Damon. Rôle qui lui vaut enfin de décrocher l'Oscar. Lui qui avait presque lâché l'affaire au bout d'un moment, il disait « Décrocher un Oscar, c'est aussi difficile que d'embrasser ses propres fesses ». Je vous laisse visualiser, c'est bien vu. Et j'offre à nos auditeurs, dans la grande tradition castellopienne, un fun fact sur le tournage de Good Will Hunting, qui en dit long une fois de plus sur les dons d'improvisateur de Robin Williams. Vous vous souvenez de la scène où Matt Damon se confie à Robin sur le fait de ne pas vouloir découvrir que la femme qu'il aime n'est pas parfaite? Vous voyez cette scène? Eh bien, cette scène est totalement improvisée. Dans le script original, son personnage est censé partager une anecdote sur la façon dont sa femme éteint son réveil la nuit, ce qui cause son retard au travail le matin. Eh bien, Robin, en fait, va beaucoup plus loin en racontant comment sa femme pète durant son sommeil, une fois si lourdement qu'elle en a réveillé le chien. Matt Damon, lui, s'attend pas du tout à ça, il suit le script, et donc il est pris d'un fou rire bien réel, puisqu'il a aucune idée de ce que son partenaire va venir. Les cinéphiles affirment même qu'on peut voir la caméra trembler un peu, nous indiquant que le cadreur aurait été embarqué lui-même dans le fou rire. Je sais pas si c'est vrai, mais j'aime bien cette anecdote. Hélas, Robin Williams avait également une face plus sombre, plus angoissée. Il vivait dans la hantise d'être détrôné par un jeune loup de la comédie. Sa femme raconte notamment que la montée en puissance de Jim Carrey l'avait complètement effrayé. Alors oui, la dépression chronique, oui, la vie sentimentale dissolue, oui, les infidélités, oui, les problèmes cardiaques en 2009 qui interrompent sa tournée à guichet fermé, oui, un possible début de maladie de Parkinson qui l'aura gardé secret, oui, un comportement différent et qui inquiète ses proches, et oui, une démence que les médecins n'avaient pas diagnostiquée, une démence progressive qui provoque des hallucinations et 50 autres symptômes dont il souffrait, comme l'expliquera ensuite sa femme. Oui, la lucidité devant la progression de cette maladie baptisée maladie à corps de Lewy, et oui, il s'est suicidé le 11 août 2014, non pas avec une ceinture H&M, c'était moins 1% faux, rassurez-vous Stéphane, c'était bien une ceinture Dolce Gabbana en croco, mais ça n'allège en rien le calvaire qu'il a vécu sur la fin. On peut remettre la musique cirque, c'est vraiment fun. Ce n'est qu'à l'autopsie que les médecins comprendront qu'il souffrait de ce syndrome rarissime sous une forme d'une virulence rarement vue. « Je ne suis plus moi », disait Robin à ses proches quelques temps avant son décès. Il oubliait ses répliques, il se sentait traqué. La veille de sa mort, il croise un voisin tandis qu'il promène son chien. « J'ai vraiment besoin d'un câlin », lui confie-t-il. Son voisin s'exécute et le prend dans ses bras pendant que l'acteur fond en larmes. Vous le sentez les amis, on s'oriente vers le climax comique de ma chronique. Mais ça qu'on termine sur du pathos, Robin n'aurait pas aimé. C'est pourquoi je conclurai sur une note d'espoir. Si Robin Williams est mort, son esprit comique perdure à travers ses héritiers du rire, notamment chez nous, Stéphane Bern, stand-upper de génie, qui a l'art de nous faire rire même quand les nouvelles ne sont pas bonnes, comme hier en antenne.
Ça remonte les chiffres, non?
Les chiffres de quoi?
Du Covid, non?
J'ai cru des audiences. qu'est-ce qu'on se marre avec vous, Stéphane. Heureusement que vous êtes là pour remplacer Robin Williams.
Non, mais vous aussi. Merci, Mathieu. Donc, 99% vrai.
Ouais, à part la ceinture HM.
La ceinture HM.
Tout est tristement vrai pour ce pauvre Robin Williams. Ouais. On a diagnostiqué cette maladie que post-mortem. C'est quand même dommage.
C'est bizarre, cette histoire.
En même temps, les docteurs disent qu'ils n'auraient rien pu faire. Donc, ouais. Quelque part.
Mais c'est terrible parce qu'il a dû se sentir en train de... De sombrer dans la...
Il s'est vu oui, parce qu'il avait ce instant de totale lucidité, donc c'est le moment ouais. Notamment...
Il n'était pas si vieux, quoi. C'est
pas du tout.
65, 4 ouais. Ans, non
ouais. Et je trouve qu'on a mis du temps à savoir ça. Enfin, à l'époque, on disait qu'il était dépressif et qu'il s'était suicidé comme ça. Mais non, en fait, il
avait une
maladie avec des hallucinations. Ouais. Ah oui, c'est terrible.
Oui. Eh bien, merci, c'était triste et beau.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de saluer nos poètes disparus pour retrouver nos chroniqueurs bien vivants.
Oh oui Stéphane, chaque après-midi, ils passent sous le microscope de leur sagacité un élément de notre quotidien, un plat, un objet ou encore une expression. Ils nous en racontent l'origine. Olivier Pouls, vous nous racontez l'origine des champignons de Paris.
Pas n'importe quel champignon, oui, ceux de Paris. Mais viennent-ils de Paris?
Vous nous avez déjà dit que non. Mais enfin, à une époque, ils étaient bien de Paris.
Oui.
C'est quand même de là qu'on a donné leur nom. Le mot de la fin, ce sera vous, Stéphane. Ça fait des lustres que j'attends cette chronique.
Oui, ben ça fait des lustres aussi, mais ça n'a rien à voir avec les lustres du plafond, évidemment, qu'on peut trouver dans votre superbe appartement, Mathieu.
Oui, j'ai bien une gueule à avoir des lustres dans mon appartement, Stéphane. Effectivement, c'est bien de connaître. Mais tout de suite, on retrouve David Castello-Lopez pour les origines d'une invention qui est très utile, particulièrement aujourd'hui, c'est le SMIC.
Tout à fait.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Il nous révèle son salaire en direct cet après-midi sur Europe 1. David Castello-Lopez remonte aux origines d'une invention chaque jour et aujourd'hui une invention fort utile, le SMIC.
Oui, tout à fait. Quand j'avais 20 ans, moi, Stéphane Bern, c'était déjà une resta. Hein mais moi, je suis toujours pas une resta, mais j'étais quand même moins une resta encore quand j'avais 20 ans. Et du coup, je devais gagner un peu d'argent l'été. Et l'une des choses que j'ai faites, c'est de vendre des ceintures aux Galeries Lafayette. J'étais représentant de la marque Extra Souple. Et donc, toute la journée.
C'est une marque, ça, Extra Souple.
Extra Souple. Et donc, toute la journée, au mois d'août, je mesurais le tour de taille de personnes obèses en me retrouvant donc avec leur ventre collé sur mon visage puisqu'ils étaient obèses. Ventre humide, bien sûr, puisqu'on était au mois d'août. Et je faisais ensuite des petits exposés sur à quel point les ceintures Extra Souple étaient d'une souplesse remarquable. Et bien sûr que Et bien sûr que je peux l'ajuster à votre taille. Je vous propose d'aller payer en caisse et je m'en occupe pendant ce temps-là. Et j'ai fait ça de 10h à 19h. Tous les jours pendant un mois et au terme de tout cela j'ai reçu un chèque de 1000 euros qui à l'époque était le montant du SMIC. Je vous avoue que je trouvais pas ça beaucoup mais fondamentalement j'avais plutôt des raisons de m'estimer heureux parce qu'il fut un temps où si monsieur Extra Souple avait voulu me payer juste 10 centimes
il aurait pu.
Et il aurait parfaitement eu le droit. Mais alors d'où ça vient ce SMIC, ce salaire minimum interprofessionnel de croissance? Et question supplémentaire, c'est quoi le rapport avec la croissance, hein? C'est quoi le C de SMIC? Petite parenthèse, j'aimerais remercier Jérôme Gauthier, professeur d'économie à la Sorbonne, pour ce qu'il a écrit sur la question, sinon je pense que j'aurais rien compris à ce que je m'apprête à dire maintenant. Et là, j'espère quand même avoir compris, même si je suis pas complètement sûr. Alors, il y a un truc qu'on a pas mal oublié aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une période de plus de 10 ans, entre 1939 et 1950, où l'État français contrôlait les salaires. Il pouvait dire à des pans entiers de l'économie, non, vous augmentez pas les salaires, c'est comme ça. Pourquoi? Eh bien, parce que l'ennemi, à ce moment-là, c'était l'inflation. Largement à cause de la guerre. Quand il y a la guerre, l'État met des grandes quantités d'argent dans l'économie pour fabriquer par exemple des objets explosifs à envoyer dans le visage des nazis. Mais en même temps, pour le quidam normal, en temps de guerre, il n'y a pas grand chose à acheter. Et quand il y a trop de thunes en circulation et pas assez de choses à acheter, et paf, inflation. Et donc, un des moyens de réguler l'inflation, c'est de limiter la quantité d'argent en circulation. Et pour faire ça, l'un des outils disponibles pour l'État, c'est de contrôler les salaires. Et puis, les syndicats, à partir de la fin des années 40, ils ont commencé à s'énerver un peu. Ils ont dit à l'État, écoutez, on aimerait bien pouvoir négocier nous-mêmes avec les patrons, sans que vous nous disiez ce qu'on a le droit de faire ou pas. Bande de tarbas. Sauf que, il y a un petit risque quand on fait ça, c'est que les employés qui travaillent dans des entreprises qui sont mal représentées par les syndicats, ce que dans le milieu on appelle quelquefois les trous entre les conventions collectives, eh bien, ces gens-là, ils se retrouvent un peu zobés niveau salaire. Et donc, la loi...
Zobés, ça veut dire qu'ils se sont fait avoir, Stéphane.
Oui, voilà. Et donc, la loi du 11 février 1950, l'une des plus célèbres lois sur les salaires, si tant est qu'une loi sur les salaires peut être célèbre, elle a fait deux choses. Un, elle a donné le droit aux syndicats de négocier les salaires directs. Et deux, elle a protégé les salariés en instaurant un salaire minimum qui s'appelle alors le SMIG,
et oui,
avec un G, salaire minimum interprofessionnel garanti. Et il y a des estimations qui disent qu'au moment où le SMIG a été introduit, 30% des salariés gagnaient moins. Donc pour eux, ça a quand même été super cool. Et puis, en 1970, il y a Jacques Chaban-Delmas, l'étalon bordelais, qui a dit « Maintenant, le SMIG avec un G, ça devient le SMIC avec un C ». Est-ce que vous savez quelle est la différence entre les deux?
Vous nous avez dit de la croissance.
Voilà. Le SMIC avec un G, il était indexé uniquement à l'inflation. Mmh. Si les prix augmentent, on augmente le SMIC.
Donc, et l'autre, il est indexé sur la croissance.
Et oui, mais alors comment? Le SMIC, lui, il est aussi indexé sur le salaire moyen des ouvriers. Eh bien, parce qu'en 1970, on considérait pas forcément, à raison d'ailleurs, que si le salaire des ouvriers augmentait, c'était que le pays était en croissance économique. Plus il y a de croissance économique, mieux les ouvriers sont payés, et plus on augmente le SMIC. C'est ça, le rapport avec la croissance, c'est le C de SMIC. Pour finir, quelques petits fun facts sur le SMIC.
Facts, hein, oui,
voilà. C'est pas facile de faire des fun facts sur le SMIC, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Fun fact numéro 1, pendant longtemps, il y avait plusieurs SMIC selon que vous habitiez à Paris ou en province. Le meilleur SMIC, non, c'était à Paris, mais si vous habitiez par exemple Angers, bah votre SMIC,
ah oui,
était moins bien.
Ah oui, c'était indexé sur
voilà, ce qui était quand même,
les salaires.
Oui, ça se tenait dans une certaine mesure, parce que le lait fraise à Angers, il coûte mal,
oui,
même,
oui,
près,
le
même prix
qu'à Paris.
Les loyers.
Paris.
Voilà,
les loyers.
Mais ça a été aboli en 1968. Autre fun fact, hein, sous forme de quiz, vous savez quelle a été la plus grosse augmentation du SMIC de l'histoire?
5%.
Non mais quand?
68.
68. Ah. 35%.
Ah oui, j'étais loin du compte.
Un gros bond quand même, donc en tant qu'ancien vendeur de ceintures, je dis merci.
Ouais. Et oui, parce que vous avez bénéficié. Mmh. C'était
tout à fait.
68, il faut
vous n'étiez pas né en 68, à mon avis.
J'étais pas né en 68.
Ouais. Et vous pouvez vendre une de vos ceintures encore, vous en avez ou...
J'en ai gardé une pendant longtemps, mais
vous
elle s'est...
Vous avez racheté le stock.
Mais elle a fini par se briser, mais 15 ans plus tard. Voilà. Pour l'anecdote, il y avait quand même une autre marque qui était juste à côté qui s'appelait Amboise, et leur ceinture était infiniment plus souple que les ceintures extra souples.
Extra souple, ça,
et ça
génial.
M'est arrivé de glisser ça au passage au client en trahissant un petit
en trahissant
peu
votre
la marque.
Marque
pour laquelle je
Nous
travaillais.
Nous sommes avec
quoi.
Le patron de cette marque qui se souvient de vous.
Merci
David Castello.
David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et évidemment sur le site europe1.fr.
Et si on se faisait une petite poêlée maintenant, Stéphane?
Oui.
Ça serait c'est le moment idéal.
Oui, on n'arrête pas de se poêler déjà.
Alors maintenant, une poêlée de champignons, mais pas n'importe lesquels, Olivier. Des champignons de Paris. D'où viennent-ils?
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Olivier Pouls est avec nous, notre expert gastronomique, qui nous entraîne aux origines d'un plat, ou aujourd'hui d'un produit, les champignons de Paris.
Agaricus bisporus, c'est le nom scientifique de ce champignon, dont l'origine lointaine n'est pas tout à fait parisienne. L'origine lointaine du champignon de Paris, cette variété donc, proviendrait d'Asie, du Chine ou du Japon. Mais son arrivée en France, eh bien c'est sous le règne de Louis XIV à Versailles, grâce à un certain Jean-Baptiste de la Quintigny.
Bah oui, le potager du roi.
Voilà, qui était son jardinier, et qui a créé le fameux potager à Versailles, qu'on peut toujours visiter d'ailleurs, enfin peut-être pas en ce moment, mais en tout cas, quand on pourra, c'est un endroit que je vous recommande chaleureusement, c'est très très intéressant. Et à l'époque, il découvre donc ce nouveau champignon, qui est un champignon donc, qu'on cultive, qui n'est pas un champignon sauvage, et qu'on cultive sur du fumier de cheval. À l'époque, il est cultivé à l'air libre, et non pas comme maintenant, en sous-sol, à l'intérieur. C'est un petit peu plus tard qu'on va découvrir que, en fait, dans des lieux fermés et humides à température et hygrométrie constante, ça marche beaucoup mieux. Et c'est donc le développement de la culture de ces champignons dans les carrières du sud de Paris et dans les catacombes.
Voilà.
Et c'est là qu'il va prendre son nom de champignon de Paris, parce qu'on va le cultiver pendant longtemps dans les catacombes. Mais pourquoi est-ce qu'on va arrêter et pourquoi est-ce que ce champignon va migrer dans la Loire, où aujourd'hui est la plus grande partie de la production de champignons de Paris?
Qu'est-ce qui s'est passé? La peste? Non.
Pas la Seine qui monte?
Non plus.
La Seine
1895, les travaux du métro.
Ah ben oui, bien
et
sûr.
Et voilà.
Oui.
Et donc, il n'y a plus de place pour
plus de place
la culture des champignons de Paris, et on va les déplacer dans la Loire, donc dans la région de Saumur, bien où sûr. Encore aujourd'hui, on produit ces fameux champignons
dans
de
les
Paris.
Les anciennes carrières de Tuffaut. C'est formidable.
Alors, il en reste encore un tout petit peu. Je crois qu'il reste 5 producteurs dans la région parisienne, notamment dans les Yvelines, qui ont un savoir-faire qui est très différent des champignons d'importation, parce qu'aujourd'hui, 90% de ce qu'on appelle les champignons de Paris, c'est une appellation qui n'a pas du tout été protégée.
Vous voulez dire que la plupart d'entre nous n'avons jamais goûté des vrais champignons
très
de Paris?
Très peu. Probablement, vous avez goûté des champignons qui viennent de Pologne, des pays de l'Est, voire peut-être de Chine, parce qu'aujourd'hui, la Chine produit 70% des champignons de Paris dans le monde. Des champignons de Paris que vous achetez en boîte, vous savez, là, ce qui n'a strictement aucun intérêt. C'est souvent des produits qui viennent de Chine. Et je
David, avec son SMIC, était très content de trouver des champignons en boîte à 1 euro chez Leader Paris.
Dans la blanquette, je les mets dans la blanquette.
Trop vous recommander que de goûter un jour des vrais champignons de Paris français faits dans les règles de l'art sur du fumier de cheval. On en trouve
sur du fumier de cheval.
Sur du fumier de cheval, toujours. Alors, on les reconnaît en général, ils sont un peu plus sales.
Alors,
ils ont le pied qui a pas été coupé et donc qui est pas nickel. Vous aurez des traces notamment de fumier qui vont rester au pied. On les coupe évidemment, mais vous allez voir qu'en termes de goût, de densité, ça n'a rien à voir et c'est vraiment un champignon excellentissime. Enfin, il a vraiment une petite saveur de noisette.
Je crois que par hasard, ce week-end, j'ai mangé des vrais champignons de Paris parce qu'il y avait effectivement les pieds étaient entiers, il y avait plein de terre et tout ça et j'ai dû couper. Et
probablement.
Ils étaient particulièrement bons.
Ben voilà, probablement. Et d'ailleurs, ils rendent beaucoup moins d'eau que les autres. Alors, je vous donne rapidement une petite recette.
Ah,
moi,
oui.
Je les mange crus en carpaccio. Et il y a une association qui est remarquable, c'est que champignons de Paris et café. Et alors, vous faites une huile d'olive infusée au café. Vous chauffez votre huile d'olive un petit peu. Vous prenez une petite pincée de poudre de café. Vous laissez infuser pendant une petite demi-heure. Ça va légèrement parfumer cette huile. Et vous allez ensuite couper vos champignons de Paris très finement après, bien sûr, les avoir lavés. Et vous allez rajouter cette petite huile avec un tout petit filet de jus de citron, un petit peu de parmesan et de ciboulette hachée, un peu de fleurs de sel et de poivre. Et vous avez vraiment un plat d'une subtilité. Vous verrez ce côté terreux, noisté d'ailleurs, du champignon de Paris se marie à merveille avec la petite note de café. Je vous engage à essayer cette recette hyper simple.
Mais il y a le marc de café qu'on a sous la langue.
À partir du moment où vous avez infusé, le marc, il va redescendre en dessous. Donc quand vous allez verser l'huile, faites attention de
ne pas mettre le marc de café
dessus. Le marc de café dessus,
ça n'est pas très agréable. Ça permet de lire l'avenir en mangeant des champignons, ce qui est toujours très pratique. Merci beaucoup, Olivier Pouls.
Et si ce ne sont pas des bons champignons, l'avenir est assez court.
Oui, c'est ça.
Eh bien, formidable, Olivier. On retrouve évidemment toutes vos recettes en podcast et sur toutes les applis audio et le site europe1.fr. Stéphane Bern est là, il trépigne d'impatience pour nous livrer son mot de la fin. Aujourd'hui, l'expression... Ah oui, il fait en plus le...
Je mets les bruitages sur
attention
vos paroles.
À ne pas casser le matériel quand même, Stéphane. Oui. Ça fait des lustres. Voilà une expression étrange qui veut dire évidemment ça fait longtemps. Mais lustre, on parle des luminaires ou pas?
Non, en fait, ça fait un bail. Je vais vous raconter ça.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
D'où viennent ces mots qu'on emploie au quotidien, toutes ces expressions parfois fleuries? D'où viennent-elles? Aujourd'hui, Stéphane, dans le mot de la fin, vous nous parlez de l'expression « ça fait des lustres ».
Oui, vous pensiez certainement que ça avait à voir à faire avec vos grands luminaires superbes que vous avez au-dessus de votre tête. Eh bien, pas du tout.
En cristal, moi, personnellement.
Il n'y a aucun rapport.
Ah bon?
J'ai quand même été compté pour vous hier le nombre de lustres dans la galerie des glaces du château de Versailles. Il y en a 20. Ça paraît peu comme ça, mais ils sont tous en bronze argenté, je voulais vous donner cette précision. Bref, revenons à nos autres lustres. Au XVIIe siècle, c'est un peu la même époque, un lustre désignait une période de temps précise.
Ah voilà.
5 ans. C'est durant la Rome antique que naît le lustrum, une unité de temps correspondant à une cérémonie qui avait lieu tous les 5 ans. Durant cet événement, on purifiait les citoyens en les aspergeant d'eau lustrale. On procédait également à un recensement et on élisait les censeurs, comprenez les magistrats. Quand on dit « ça fait des lustres », ça fait donc plusieurs fois 5 ans. Ça peut effectivement dater alors que juste un lustre, c'était il y a 5 ans. Il y a un lustre, c'était en 2016. Mm-hmm. Christophe Maé chantait « Il est où le bonheur ?» La primaire de la droite pour la présidentielle se préparait entre François Fillon, Jean-François Copé, Jean-Frédéric Poisson et Nicolas Sarkozy, entre autres. C'est aussi l'année de la disparition de David Bowie, de George Michael, de Prince et de Michel Delpech. Bon, effectivement, on n'a pas l'impression que ça fait des lustres, mais plutôt que c'était hier.
Oui, c'est vrai que ça c'était très proche de nous, finalement.
Je vais bientôt avoir 10 lustres.
Vous allez avoir 10 lustres. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette occasion?
Une grande fête. Hein.
Une grande fête. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis. Pour clore cette spéciale poète disparu, vous m'aviez dit, Stéphane, que vous vouliez déclamer quelques alexandrins de votre cru.
Non, parce que...
Non, vous vous dégonflez. C'est dommage,
pas
Stéphane.
Ça
faisait une joie.
Non, j'aimais beaucoup Pierre de Ronsard.
Vous ne ferez pas mieux. Vous avez dit que vous ne réussirez pas mieux que Pierre de Ronsard. Vous préférez vous taire. Vous avez raison. Il n'y a pas que la poésie dans la vie. Il y a aussi le spiritisme. Demain, nous allons frissonner ensemble.
Mais demain, on se demandera « Esprit, es-tu là ?» Et visiblement pour eux, il y était. On réunit 3 férus de spiritisme. L'écrivain Victor Hugo, l'astronome Camille Flammarion...
Et Jimmy Page, Stéphane, vous voyez qui c'est?
Oui, c'est fou. Je ne savais pas qui était.
Convoquez votre esprit rock, puisque je vous raconte effectivement le guitariste du groupe Led Zeppelin. Et en plus, il a vu un fantôme pour de vrai. Et en général, je sais ce que vous me dites après ça.
Oh yeah.
Alors à demain, Stéphane. À demain, les amis.
À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.